Rebonjour, on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Camille. Bonjour Camille.
Bonjour François.
On fait encore une fois le tour du monde
Oui,
en toute simplicité et on commence par la Belgique.
tout à fait. En fait, on a une belle initiative qui a été faite par la ville de Charleroi, en Belgique, une table ronde maternité et handicap.
Ouh,
Donc,
un sujet qui est souvent, que des gens trouvent un peu surprenant, tabou ou ainsi de suite,
c'est
là,
ça.
puis on essaie de travailler là-dessus.
C'est ça, exactement, un petit peu démystifier la chose, puisque bon, il n'y a rien de mal dans
Oh,
la
au
maternité.
contraire, ouais.
Ben oui, c'est important. Et donc là, l'initiative de la ville, qui en a prise beaucoup en fait cette année pour pouvoir démystifier toutes les questions du handicap, que ce soit sur le travail, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, l'inclusivité des enfants, les initiatives culturelles. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment pour initier les professionnels au masculin et au féminin, à accompagner les mamans dans le respect, bien sûr, de leur cheminement et de leurs droits, surtout parce que par rapport à leurs enfants. Donc, en fait, comment concilier les droits de la mère avec ceux de l'enfant? Donc, c'est l'une des initiatives, pardon, de cette table ronde aussi. Ils vont discuter de quels sont les nouveaux enjeux des prises en charge, puis des besoins qui émergent aujourd'hui. Parce que ce soit des handicaps moteurs ou par exemple un TSA, la prise en charge est
Tout
différente.
à fait.
Donc tout ceci va être abordé. Et le but, bien sûr, c'est de faire un tour des questions et des solutions qui peuvent
Oui.
être
Ah, ben,
amenées.
il faut être en mode solution, là, si on veut avancer. Charleroi, en Belgique, se veut devenir une ville de plus en plus inclusive.
Exactement.
Et en fait, même, ils en font une fierté, ce qui est fort bien. Moi, j'ai relevé sur leur site des trucs. D'abord, ils ont un Père Noël cette année, un Père Noël qui est sensibilisé à accueillir les adultes et les enfants à besoins spécifiques.
Exactement,
Hein,
avec
et les adultes,
enthousiasme.
c'est important parce que on croit tous encore un peu au Père Noël. Et donc, il y a cette, je dirais, cette initiative qui est heureuse, évidemment, pour le temps des fêtes. Et il y avait une démonstration de sarbacane sportive.
Ah, rien que ça.
Oh oui, alors ça a l'air que c'est un sport où on tire une petite fléchette au travers d'un tube, là,
Oui, je vois.
comme
J'ai vu
les
ça dans
autochtones.
Tintin.
Oui, tout à fait, moi ça me rappelle Tintin, là, mais c'est peut-être pas une bonne référence pour ce qui est de l'inclusion. Donc c'est un sport de tir de fléchette avec des cibles, mais ça peut permettre à quelqu'un qui a une mobilité réduite d'y participer. Alors ils ont même un club qui s'appelle Dardard. Ah, c'est un jeu de mots.
J'imagine.
Oui, voilà, et qui font ce qu'on appelle en anglais du blowgun, mais sarbacane, c'est plus joli. Alors,
Oui.
Charleroi, donc, en Belgique, se veut
Inclusive,
inclusive
puis il y a eu
et...
aussi le relais signe.
Oh,
Ça,
OK.
c'est pas mal du tout. J'ai trouvé un service d'interprétation à distance pour des appels téléphoniques.
Ah, d'accord. Tout ça à Charleroi
Tout
encore?
ça à Charleroi. Oui, ils sont vraiment dans une démarche d'inclusivité. Puis ils développent des outils, en fait, qui, j'espère, pourront être donnés à toute la francophonie, en fait, puis même à tout le monde. Ce
Tout
serait
à
très
fait.
bien.
Et quand une ville comme ça se fait une fierté d'être inclusive, ben, on voit que ça redresse le discours. Hein.
Tout à
C'est
fait.
assez important.
La table ronde aura lieu le 19 décembre.
Parfait. Hein? Alors, on lève notre chapeau à tous les Carolos. J'ai
Oui.
appris que c'était le patronyme des gens de
Ben oui, on serait
Charleroi. Ce
tenté de
sont
dire
des
les
Carolos.
Charlevois,
Hein?
Charlevoisins,
Oui,
en tout
voilà,
cas.
exact. Par ailleurs, il y a un podcast que vous connaissez bien qui est encore disponible.
Exactement, oui. Alors, je suis tombée dessus sur handicap.fr. Donc, c'est une série de podcasts qui s'appelle Rare et je vis avec. Donc, en référence à des maladies rares qui sont démystifiées aussi à travers des témoignages de différentes personnes qui sont touchées par différents types de syndromes, par exemple des excroissances, des maladies que l'on ne connaît pas comme des syndromes particuliers. Et qui sont donc racontées par des personnes qui sont porteuses de ces conditions-là à travers un podcast. Donc, le podcast a été initié par handicap.fr, qui l'a rendu disponible sur toutes les plateformes, vraiment, que ce soit Spotify,
D'accord.
Apple Music, enfin,
Oui,
en tout cas sur la
OK.
plateforme Apple. Et donc, depuis le 24 octobre, on a la possibilité d'écouter un épisode par semaine de ces témoignages-là. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Bien sûr, encore, l'objectif, c'est de sensibiliser, briser les préjugés et aussi contribuer à la recherche.
Oui. Parce que les maladies orphelines, les maladies rares, là, on parle des zèbres. Hein. L'idée, c'est que... Ah oui, le truc du zèbre, c'est parce que les... En médecine, souvent, on diagnostique ce qui, à 90% est juste.
OK.
Alors, si j'entends des sabots sur le pavé, ce doit être un cheval. Mais parfois, ce n'est pas un cheval. Parfois, c'est un zèbre.
Mmh.
Donc, les gens qui sont atteints d'une maladie rare courent d'un diagnostic à l'autre. Et souvent, c'est très long et très pénible avant qu'on mette le doigt sur le problème et qu'on puisse, à ce moment-là, les prendre en charge adéquatement. Voilà d'où vient le zèbre. Les podcasts, ils sont archivés, on peut retourner derrière.
Oui, on pourra. Là, il reste encore deux épisodes. L'un qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, celui de Justine, qui a le syndrome de Cloves.
D'accord.
Donc, le 19, ce sera Cécile Cutty, qui a le cutis laxa.
Exact.
Donc, un autre syndrome.
D'accord. Mais en fait, je vois la liste et certains ont des noms faciles à prononcer, comme la maladie de San Filippo, mais d'autres, ce sont vraiment des acrobaties alphabétiques auxquelles je ne me risquerais pas.
Bah, vous avez bien raison.
Mais voilà. Mais ce qui est important, c'est quand même d'aller faire un tour.
Oui,
de s'informer au sujet de maladies rares. Peut-être que ça va aider des gens qui sont aux prises avec les mêmes problèmes, qui se sentent terriblement isolés.
Mais oui.
Et qui vont pouvoir, comme ça, faire un lien, faire un pont.
Alors, puis
ça,
voir ça leur médecin, pas... puis dire, ah oui, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai?
Tout à fait. Alors, ça, c'est une bonne chose.
Mm-hmm.
Voilà.
On continue sur le podcast, François?
Oui, allez, allons.
Allons-y. Donc là, on a une émission en fait qui a été créée par Maritima Media, donc qui est un média francophone et qui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, donc qui s'est tenue le 3 décembre dernier, a consacré une émission sous forme de podcast, vraiment qui aborde aussi des thématiques autour de la question des conditions. Donc, quelle est la place, surtout dans la société pour le handicap? Qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est consacré pour le handicap? Évidemment, et on en parle de plus en plus, c'est une bonne chose, le handicap et la sexualité, le handicap et la scolarité, et aussi, bien évidemment, le sport et le loisir. Donc,
et l'émission s'appelle « Le handicap, ici on en parle ».
Exactement, oui, tout à fait. À réécouter, donc évidemment, ça avait lieu le jour de la Journée internationale, mais on peut la réécouter hein, sur le site de Maritima Media, donc Maritima comme maritime, et puis un petit A à la fin. À l'intérieur, on trouve des entrevues donc d'intervenants, mais aussi de personnes politiques, celle de Pierre Dharréville, donc, qui est député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, donc en France, apparemment qui est très engagé sur la question du handicap et surtout de comment l'inclure et le déstigmatiser dans la société.
Oui. C'est le bon terme.
On a Laurence Cassandry aussi, qui est une accompagnante des élèves en situation de handicap, qui nous parle de son expérience, puis de sa vision de l'éducation en prenant bien en compte tous les élèves. Donc, c'est vraiment bien diversifié.
Et un des intervenants, je dois dire, c'est Ada Abdelli.
Oui.
Alors, Ada Abdelli, là, si vous ne le connaissez pas, c'est un comédien et c'est un co-auteur d'une série qui s'appelle Vestiaire.
Exactement.
Vestiaire au... Alors, vous n'avez jamais vu Vestiaire sur France 2? Ça, c'est très drôle et c'est assez décapant. Alors, l'idée de Vestiaire, vite dit, ce sont des personnes en situation de handicap qui font partie d'un club de natation.
Mm-hmm.
Okay? Alors, comme ils sont souvent en maillot de bain, leur handicap est assez évident. Ce sont généralement des handicaps moteurs. Mais il leur arrive toutes sortes de situations et c'est vraiment drôle.
Mm-hmm.
Et c'est écrit par des gens qui, comme Ada Abdelli, vit avec un handicap. Ça fait tellement du bien, ça fait tomber toutes les barrières.
Exactement.
Et je sais qu'on travaille peut-être pour amener ce concept-là ici sur France 2, peut-être bien que c'est disponible à la TV. Moi, je l'ai vu par YouTube.
Oui, les épisodes sont disponibles.
Peut-être qu'on peut
là.
Le voir si on est câblé. Juste un truc cependant, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, le site de Maritima, où vous avez pris le podcast, il est envahissant.
Ah, vous trouvez?
Ah, mon Dieu.
Ah, mais moi, j'ai un bloqueur de
Peut-être le mien n'est pas assez fort, parce que moi, ça les fenêtres, là, ça explosait sur mon écran. À un moment donné, là, j'y arrivais plus. Alors, peut-être que c'est vous que ça... Vous êtes mieux équipé que moi, Camille.
Ben, je voyage beaucoup, vous savez. Hein.
Ah, ben, c'est ça. Vous êtes bien équipé, comme on dit. Vous êtes équipé pour aller loin, tout à fait. Bien, on va... parler de choses qui sont plus dures, je pense.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est le monde, là, ça va pas très bien, entre autres en Asie du Sud-Est, là, les Rohingyas.
Oui, tout à fait, les Rohingyas.
Qui est un peuple stigmatisé. Vraiment, mm-hmm. là, c'est... Ils sont en bas de l'échelle pour ce qui est des problèmes et toutes sortes de choses. Ce peuple-là est apatride. Et le plus grand camp de réfugiés au monde, qui est au Bangladesh, oui. Je pense. Et là, c'est pas facile d'être handicapé.
Exactement. Bah oui, vous l'avez bien présenté. Dans ce camp de réfugiés-là, on a 650 000 personnes, donc des Rohingyas, qui sont là depuis 5 ans. Donc, ce camp a été mis en place pour accueillir tous les réfugiés qui venaient suite à toutes les problématiques qu'il y a encore avec les réfugiés Rohingyas. Donc, l'article que j'ai trouvé sur cette situation, il a été publié par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, vraiment, ça, c'est l'annexe des Nations Unies qui est consacrée.
Tout à fait. C'est l'autorité.
Exactement. Et elle veut sonner l'alerte, en fait, pour dire que l'avenir est très incertain concernant l'aide, notamment financière, qui est apportée aux personnes handicapées dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Donc, le soutien, déjà, qu'il est limité. Apparemment, il va être encore plus limité et est très menacé par la réduction des fonds alloués à l'aide humanitaire. On a dans cet article un témoignage de Nour, qui est un réfugié de 18 ans, qui vit avec une paralysie cérébrale. Donc lui, il est engagé en tant que bénévole depuis l'année 2019. Il aime évidemment son expérience, puisque ça lui permet d'aider les gens, mais aussi lui d'être dans un milieu social, si je peux dire ça comme ça.
Tout à fait.
Et il a constaté qu'il y a un gros recul, en fait, des services et des ressources qui sont disponibles pour tous les autres réfugiés qui sont là-bas. L'an dernier, apparemment, une étude, donc cette étude-là, elle est sortie en anglais, elle a révélé que 12% des près d'un million de réfugiés Rohingyas qui vivent dans les installations du district donc où se trouve le camp au Bangladesh souffraient d'un handicap. Donc on parle de 12%.
Ouais. C'est la proportion presque habituelle dans une
population,
société, mais je vous dirais que c'est même un petit peu moindre, parce que c'est terrible à dire, je suspecte que les autres personnes en situation d'handicap n'ont pas survécu.
Et ben voilà. C'est ce qui est dénoncé aussi. On a eu le temps, hein, dans cette émission d'aborder la question de la Syrie, de l'Ukraine aussi.
Oui.
Évidemment, ce sont les personnes qui, malheureusement, ne survivent pas systématiquement. Donc, c'est très compliqué. Mais là, en plus, donc, les ressources vont être coupées.
Coupées. Alors, non seulement vous êtes apatride, vous vivez dans un camp de réfugiés où les conditions de vie sont exécrables, misérables. Mm-hmm. En plus, vous êtes en situation d'handicap et on vous coupe les vivres.
Et voilà.
Oh là là. Alors, nos pensées sont avec ces gens-là, tout à fait. Mm-hmm. Ça nous ramène un peu... À notre quotidien ici, hein,
de ben savoir oui, malheureusement. Si...
Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider? Ça, peut-être que ça remonte par nos propres gouvernements.
Évidemment, il y a toujours la question des dons. On peut toujours faire des dons à ces organismes-là. Exact. Mais après, le suivi aussi, ça, c'est une autre problématique.
Tout à fait.
Et puis, il faut que ce soit une priorité. Parce que ce qu'on dit dans l'article, c'est que l'aide aux réfugiés en situation de handicap au Bangladesh n'est pas la priorité de la Cox's Bazar, qui est le nom du camp. Et qu'à partir de là, j'imagine qu'ils ont d'autres priorités. Peut-être les enfants en bas âge, les mères qui vont accoucher, des choses comme ça. Mais ça fait que ça restreint les possibilités de survie pour des personnes qui, ont du mal à se rendre au camp de réfugiés et qui doivent vivre des situations très difficiles à l'endroit où ils sont bombardés.
Oui, exact. Et puis, que les personnes en situation de handicap ne soient pas parmi les premières priorités dans un contexte de choix administratif, cela ne m'étonne guère, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter.
Mm-hmm.
Bien, voilà, c'est lourd comme dernière note, Camille.
Oui, on va passer à autre chose.
Mais il ne faut pas refuser la réalité non plus.
C'est vrai.
Hein? Bon, voilà. Alors, pour atterrir en douceur tout de même, un peu de musique et on vous revient.
Bonne idée.
De retour à la maison, Camille, on va parler d'une exposition. On parle à la fois d'art et de coupe de cheveux.
Hein?
On n'associe pas les deux dans la même phrase souvent. Là.
Non, c'est vrai. Sauf si on fait de l'art avec sa coupe de cheveux, ça pourrait.
Évidemment, il y a des gens qui dans le domaine de la coiffure qui sont de véritables artistes, mm-hmm. j'en conviens. Mais là, on parle de Coup de pinceau, coup de ciseau.
Oui, qui est une exposition, en fait, une exposition collective, donc qui est disponible et visible surtout depuis le 1er décembre. Elle est là jusqu'au 28 janvier. Et en fait, c'est une, ça fait partie d'une édition, hein. C'est la troisième exposition annuelle de 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou. Donc à cette occasion-là, 50 artistes québécois et québécoises ont créé des œuvres exclusives et ils se sont engagés à remettre 30% du prix de la vente donc, de chacune de ces œuvres à la cause, oui, la cause donc, d'une santé mentale sans tabou. Et avec ces revenus-là, on espère que la galerie sans but lucratif pourra donc offrir gratuitement des coupes de cheveux. Donc voici le lien avec la coupe de cheveux.
Oui, d'accord. Je me demandais où on en allait parce que je pensais que les pinceaux, là, il y a comme des petits poils très fins, mais je n'étais pas sûr.
Oui, non, c'est vraiment lié à une coupe de cheveux. Et ce sera donc pour payer en fait des coupes de cheveux. Donc ça se passera au salon de coiffure Cam et Roro.
D'accord.
Et donc, voilà. Évidemment,
ils offrent des coupes de cheveux gratuites à des personnes
qui ont recours à des problématiques
de santé mentale.
Exactement.
C'est vraiment fait. Alors, il y a des artistes qui créent, qui vendent leurs toiles à du public connaisseur
ou pas, ou
intéressé, qui apprécient le beau. Une partie des revenus de cette vente va à aider un organisme qui s'occupe de santé mentale.
Voilà.
Et en plus, qui paie des coupes de cheveux.
Voilà, c'est ça. En fait, l'organisme va financer les coupes de cheveux. Donc, il se passera au salon de coiffure que j'ai cité, Cameroro. Et voilà, comme ça, les gens seront bien contents, j'imagine. C'est original.
Oui, d'associer les deux, là, c'est amusant. Mais c'est vrai que les gens... Tout le monde a besoin de se faire couper les cheveux à un moment ou à un autre, là. De se les faire bien placer. Mm-hmm. Alors là, on est contents. Et ça se fait à la galerie Coup de pinceau, Coup de ciseau. C'est au 4603, 4603, boulevard Saint-Laurent. Mm-hmm. 4600, ça va être près de Rosemont, dans ce coin-là?
Ça, c'est les vrais Montréalais, ça.
De Montréalais, à vue de nez. Là, je dirais que c'est au centre à peu près de l'île. Le vernissage a eu lieu le 1er décembre. Mm-hmm. C'est ouvert à tous, donc c'est déjà ouvert. On est rendu aujourd'hui le 12, jusqu'au 28 janvier. Suivant les heures d'ouverture, mais ça, je suppose que ce doit être des heures d'ouverture qui sont celles que l'on connaît d'habitude. Alors, à la galerie Coup de pinceau, 4603.
Oui, c'est ça. Un petit mot sur Coup de pinceau, Coup de ciseau, quand même. Ça existe depuis 2020.
Tout à fait.
Et Coup de pinceau, Coup de ciseau, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des coupes de cheveux. Donc, ça fait partie, en fait, de leur mission à des gens dont les besoins et de sensibilité dont les personnes qui ont en fait des situations en santé mentale, et leur but c'est de sensibiliser la population donc à tout ce qui concerne la santé mentale en général.
D'accord. Mais la coupe de cheveux, ça fait partie de leur ADN, comme on dit. Donc
ouais,
c'est pas juste cette fois-ci, ce sont des gens qui s'occupent de
L'exposition en fait, c'est j'imagine que c'est cette fois-ci le lien avec l'art, mais c'est vrai que non, ça fait partie de leur mission d'offrir des coupes de cheveux aux personnes qui ont une condition mentale.
Ça c'est une bonne idée. Monsieur Tessier qui connaît Montréal comme le creux
de sa poche.
Main. Ouais, me dit que c'est juste au sud de Saint-Joseph. Alors on parle métro Laurier là.
C'est ça. OK.
Voilà. J'étais un peu trop au nord quand je disais Rosemont. En parlant de transport public, la Commission sur le transport et les travaux publics de Montréal fait une consultation.
Elle invite les Montréalais et les Montréalaises à s'exprimer sur leur position, sur comment on pourrait déployer des mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues, quelque chose que l'on fait très, très souvent. Et ainsi des projets et des initiatives qui favorisent la mobilité active. Donc la mobilité active, c'est tout ce qui concerne le déplacement, mais lorsqu'on soit en situation d'handicap ou pas, en fait, hein, de pouvoir se déplacer facilement.
On parle de pistes cyclables, on parle de toutes sortes de choses.
Oui,
on parle de piétonnières ou rues partagées.
Exactement, d'élargissement des trottoirs, des choses comme ça. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par la consultation, elles sont invitées à suivre toutes les étapes qui sont sur le site Réalisons MTL, donc Réalisons Montréal, et aussi à venir assister à la séance d'information publique qui aura lieu le 18 janvier 2023. de 19h à 22h, donc à la salle du conseil.
Oh, ça c'est sérieux, oui. La salle du conseil, là.
C'est consultation publique oblige.
C'est pas un sous-sol d'église, là, ici. Non.
Exactement, donc c'est au 155 rue Notre-Dame-Est, à Montréal. La séance est aussi disponible en webdiffusion pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et elle sera publique et accessible, donc en direct, sur le site villemontrealqc.ca. Donc, vous y aurez accès le jour de la consultation.
Mais pour participer, il faut s'inscrire. Hein? C'est
oui,
ça, ça,
ben,
c'est bien
toujours
important. On n'arrive pas là à la belle épouvante en disant « je vais me faire entendre ». Non, il faut qu'il y ait une procédure.
Hein? Voilà,
mais
c'est
ça. Mais on peut aussi présenter une opinion à la commission lors de ces audiences.
Oui, par exemple, par courriel.
Oui, c'est ça.
Ou par la poste, vraiment, ou en personne, au service du greffe commission sur le transport et les travaux publics. Donc, c'est à la même adresse au salon. Oui, tout à fait, mais à la salle de conseil, je cherchais
d'accord.
Le mot, au 155 rue Notre-Dame-Est à Montréal.
Bon, parfait. Et ça, c'est important de se faire entendre, parce que si on veut, s'il y a une volonté de la part de la ville d'améliorer l'accessibilité, la mobilité à l'intérieur de la cité, ben, il ne faut pas que ce soit décidé par d'autres. Hein.
Il
faudrait que ce soit par nous-mêmes et qu'on puisse avoir une certaine influence sur le résultat. Il y a des personnalités politiques de Montréal bien connues, entre autres Laurence Parent, qui est une militante de longue date pour les questions de mobilité et qui est maintenant au siège au conseil municipal, évidemment, qui est impliquée dans cette consultation.
Mm-hmm.
On va parler, pour terminer, parlons jouets. Hein? On va parler de jouets.
Les Legos.
Il y a un atelier de Lego en braille.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, au cours des prochains mois, la Fondation Lego, elle va proposer 7 ateliers de 45 minutes qui seront en direct sur Zoom au sujet des briques Lego. Donc, les Legos, on les connaît maintenant.
Oui, tout le monde, hein, tout le monde a manipulé des Legos quand ils étaient petits et tout le monde a mis un pied nu sur un Lego par terre.
Oui.
On était adultes.
Dur souvenir.
Ça fait mal, mais c'est vrai. Enfin, bon,
exact.
Voilà.
Alors, donc, ça a commencé aujourd'hui, en fait, le 12 décembre. C'était à 10h, donc, et c'était sur Zoom. Donc, il y avait un webinaire qui a porté sur les activités manuelles créatives pour Noël, évidemment.
Oh oui.
Ben oui, puisque le temps des fêtes, c'est une période idéale pour les offrir, les Legos, mais aussi pour décorer avec des Legos.
Ah oui, c'est la mode, là. On fait des petites figurines en Lego.
Exactement,
on a pas trop de sapin.
À la place des boules ou des choses comme
oui.
Ça, c'est pas mal. Donc, la quête en braille, c'est un programme amusant pour pratiquer en fait, le braille avec les Lego.
Tout à fait. Ben, c'est 7 ateliers de 45 minutes chacun.
Exactement.
On va sur le site INCA.
Oui, tout à fait, pour avoir plus d'informations, surtout pour s'inscrire si on est intéressé.
Oui, voilà. Et l'INCA fait aussi une autre initiative pour la quête en braille, qui est un programme amusant pour pratiquer son braille. Et ça aussi, ça s'adresse aux enfants. Et on peut le faire en communiquant avec david.trudel@inca.ca. On a jusqu'au 15 décembre, c'est à la fin de cette semaine, pour s'inscrire. Et ça s'adresse vraiment aux enfants parce qu'on lit le texte, là, puis ça dit « tu es à l'école primaire ou au secondaire, tu apprends ou tu utilises le braille. »
Oui, c'est ça, c'est pour les jeunes.
« L'INCA t'invite à te lancer dans la quête en braille. » Alors ça doit être intéressant, ça a l'air d'un jeu. Un jeu de découverte. Ah, ben voilà, Camille, déjà on nous appelle.
Et
hein,
oui.
Dans le fond de l'oreille, Mathieu Tessier, notre cartographe et en même temps maître de discipline. Camille, à la prochaine, la semaine, le 19.
Le 19,
on se revoit
c'est ça.
Pour une revue de l'année, ça va être super.